On commence.
Voilà. Alors, vous savez, il y a quelques enjoints ici, mais vous savez qu'on est dans une terre sartoise, hein, et qu'il y a beaucoup d'enjoints dans une terre sartoise. Et je voudrais vous dire quels sont les points de repère d'une anthropologie qui me semble être solide et terrienne. Nous avons un sartois qui s'appelle Marcel Jousse. Et Marcel Jousse, c'est un sartois de Beaumont, hein, donc il est à 30 km d'ici, à peine. Fresnay. Oui, alors il était à Meursey exactement, et puis sa tombe est à Fresnay, effectivement. Voilà. Et donc ce sartois-là avait une maman, il est né en 1886, hein, donc à côté de Beaumont-Fresnay, Nord-Sarthe. Sa maman avait été 3 hivers à l'école. Et son père était journalier, c'est-à-dire un peu le milieu social extrêmement pauvre. Hein. Et le petit Marcel Jousse a grandi dans cette terre sartoise en regardant vivre son entourage le plus immédiat, qui étaient les paysans de la Sarthe. Sa grand-mère, son arrière-grand-mère aussi, ne savait alors là absolument pas lire et écrire. Et vous savez, dans les terres sartoises, comme dans le milieu rural, comme dans nos villages, on se retrouvait le soir à la veillée pour raconter des histoires. Donc c'est dans cette ambiance terrienne que le petit Marcel Jousse est né. Et il était très brillant. Il y avait un vicaire à Beaumont qui connaissait l'araméen et l'hébreu, et qui l'a initié à l'araméen et l'hébreu. Et puis il a grandi, et il s'est intéressé toujours au langage que parlait Jésus. Il a été l'élève de Marcel Mauss, donc le père de la sociologie contemporaine, et il a été aussi l'élève de Pierre Janet, le père de la psychopathologie contemporaine. Pierre Janet, qui avait cette culture transversale, et Pierre Janet disait: on ne pense pas avec sa tête, on pense avec tout son corps. Et ça nous entraîne à ce qui a fait la pensée précisément de Marcel Jousse, c'est toujours d'être en relation avec le réel, le plus immédiat, le plus concret, le plus terrien. Penser vient du latin pesare, et c'est la même racine que peser. Donc dans la pensée, il y a quelque chose qui va permettre de sous-peser, d'équilibrer et de discerner, de distinguer. Eh bien, Marcel Jousse a été ensuite instructeur, enfin pendant la guerre de 14-18, il a été dans l'artillerie, il était officier, il a été blessé assez rapidement, et on l'a envoyé comme instructeur aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a pu repérer et observer les Amérindiens. Et en observant les Amérindiens, il s'est dit: mais c'est incroyable, il y a des choses qui sont complètement similaires à ce que j'ai pu vivre avec mes paysans sartois lors des veillées. Et leur manière d'observer la réalité me dit quelque chose, du réel, et quelque chose d'anthropologique, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'une culture précise, il y a des choses qui sont communes à toute culture orale. Je vous dis cela parce que c'est très intéressant. Il est devenu jésuite, il a enseigné à la Sorbonne, à l'école des hautes études, et il n'a jamais cessé d'être un paysan. Et de se souvenir de ce qu'il avait appris sur les genoux de son père, de sa mère, parce que son père était, il ne l'a pas connu bien longtemps, et de sa grand-mère. Et cette dynamique-là lui a permis d'aller observer quel était le langage de Jésus, comment fonctionnait sa pédagogie, une pédagogie également de l'oralité, de la transmission orale. C'est-à-dire une pédagogie qui prend tout l'être, toute la personne. Et il est possible qu'aujourd'hui, alors que nous allons chercher des techniques psychocorporelles, cette pédagogie de l'oralité, cette pédagogie du réalisme paysan a sans doute quelque chose à nous dire. À nous dire corporellement. Alors, je suis kinésithérapeute et j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de prise de conscience corporelle, de relaxation, et j'ai été aussi dans le cadre de la formation des infirmières en psychiatrie. Elles étaient toujours très intéressées par cette approche globale de l'homme et également simple, d'une simplicité paysanne. Alors je voudrais vous en dire quelques mots et puis de voir combien cette pédagogie peut nous parler aujourd'hui du sens. Est-ce que vous avez repéré que le monde, la Terre, l'univers, n'avait en soi pas de sens, pas de direction ? Le monde n'a pas de direction, hein ? Et nous lui en avons donné en fonction de notre expérience corporelle. C'est-à-dire qu'en fonction de notre corps, nous avons trois axes et six directions. Nous avons un avant, qui est l'avenir, hein, quand on va se dire. On a un arrière, qui est le passé. On a une droite, on a une gauche, encore un autre axe, et un troisième axe, qui est le haut et le bas. Dans tous les peuples de l'oralité, eh bien, on s'est servi de ces axes-là, de ces directions-là, pour dire le réel. L'avenir, le passé, la droite et la gauche. Tiens, la gauche se dit sinistra. Eh bien, pourquoi ? Pourquoi dit-on dans la plupart des langues de l'hémisphère nord ? Je ne sais pas ce qui se passe dans l'hémisphère sud, s'il y a des langues propres à l'hémisphère sud, mais dans l'hémisphère nord, la gauche, c'est la sinistra, et puis c'est péjoratif, voyez-vous. Eh bien, tout ça, ce sont des expériences qui sont d'ordre anthropologique, qui ne sont pas d'ordre, vous voyez, inhérente à un système de pensée, je veux dire, une idéologie. C'est une expérience du réel. Quand vous êtes dans l'hémisphère nord et que vous êtes dans la nuit, mais la nuit la plus noire, hein, sans étoiles et sans lune. La première des choses qui vous attire, c'est le soleil qui se lève. Et le soleil se lève à l'est, et si nous tournons, si nous suivons le soleil, nous allons le suivre à droite, au sud, et il va se coucher ensuite à l'est. Mais vous voyez, nous tournons vers la droite et l'on laisse la gauche à la sinistre. Donc vous voyez quelque chose qui peut nous donner quelques clés très 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 simples. Hein. Ensuite, la terre, c'est la terre, et le plus bas de la terre, c'est le Shéol ou les enfers. Et puis les cieux, et puis l'au-delà des cieux, c'est le ciel. Donc vous voyez ces trois axes et ces six directions servent par rapport à une expérience de notre corps à donner un sens au réel. Alors, si vous voulez, si vous faites l'expérience d'être debout, par exemple, et que vous fermez les yeux, vous allez être. On pourrait le faire, mais on ne veut pas le faire là, hein, si vous voulez. Voilà. On est soumis à un balancement sans cesse antéro-postérieur. Vous voyez ? C'est le premier mouvement qui nous habite, d'avant en arrière et d'arrière en avant. Les enfants qui ont des difficultés d'autisme, d'ailleurs, restent là-dedans, vous voyez ? Mais c'est le geste le plus basique, le plus basal. On ne peut pas faire plus basique que ce geste antéro-postérieur. On ne va pas rentrer dans l'histoire du serpent dont nous avions parlé la première fois, mais vous savez, un serpent n'a de muscles que postérieurs, il n'a pas de muscles antérieurs. Seuls les serpents qui peuvent redresser la tête ont des muscles antérieurs. Donc vous voyez, c'est dans, même au niveau de l'organisation des espèces, c'est ce qu'il y a de plus archaïque que cette ligne antéro-postérieure. Et puis nous avons ensuite un balancement de droite et de gauche. voyez. Donc les aussi dans la nature, hein, les vertébrés les plus archaïques, ce sont des serpents qui n'ont de muscles que postérieurs ou antérieurs. Et puis il y a ceux qui commencent à avoir des pattes, hein, vous voyez, des pattes, les amphibiens. Ils sont capables d'avancer, ils ne sont pas capables de reculer. Vous voyez, ils ne peuvent qu'avancer, ils ne peuvent pas reculer. Exactement comme notre serpent de la Genèse pouvait qu'avancer, mais les amphibiens ne peuvent pas reculer. Donc il y a une prédominance des rotateurs internes sur les rotateurs externes. Donc vous voyez ce double mouvement antéro-postérieur et mouvement latéral, vous voyez, ne peuvent se faire que s'il y a un autre mouvement, un autre axe qui est de haut en bas. À chaque fois que je passe dans ma verticalité, je suis au plus haut. Quand je penche en avant, je suis un petit peu plus bas, etc. Et si vous faites ça, vous êtes dans le bercement. Or, toutes les cultures de type oral se sont servies du bercement pour supporter leur saisie du réel. Que vous alliez chercher nos Bretons avec le cant à discant et toutes les danses bretonnes, enfin toutes les, vous voyez, ou que vous alliez chercher les griots en Afrique, tout est dans ce balancement. Hein. Toutes les cultures orales vont procéder, vous voyez, de ce tuilage, de ce balancement antéro-postérieur et latéral. Alors, revenons à Marcel Jouss qui observait ce qui se passait dans les champs. Et dans les champs, vous avez deux types d'animaux. Vous avez l'âne, hein, le plus simple, hein, ou le cheval, mais l'âne, disons, qui va porter le fardeau. Et il le porte de manière antéro-postérieure. On est d'accord, hein ? Et puis, vous avez des animaux qu'on ne voit plus maintenant, même dans les campagnes, c'était les bœufs. Et les bœufs portaient le joug. Hein ? Le joug. Dans la campagne, il fallait, que pour que le sillon soit droit, avoir une bonne paire de bœufs. Et puis, il fallait que le joug soit bien porté, bien adapté, bien ajusté. Il fallait aussi, surtout, que ce soit très, très lié et que la paire de bœufs s'entende. Parce qu'autrement, si un faisait un écart ou s'il y avait un petit flottement dans le joug, les deux se blessent. On peut parler, vous voyez, d'une relation très, très extraordinaire au niveau de notre langage avec la conjugalité qui nous vient de porter le même joug. Et vous voyez les analogies que l'on peut faire entre cette observation du réel et la réalité aussi de nos vies. Eh bien, Marcel Jouss a repéré tout cela et a vu que dans tout cela, c'était véritablement une saisie du réel et non pas quelque chose qui est d'ordre idéologique ou d'ordre, vous voyez, sentimental. C'est une véritable saisie du réel. Alors, il a repris la question qui est centrale dans l'évangile de Matthieu. Vous avez Jésus qui parle du joug et du fardeau. Et il a beaucoup analysé, vous voyez, ce support du joug et du fardeau de ces 6 directions d'espace, de ces 3 axes, en disant que Jésus s'était servi de cette image la plus paysanne possible, la plus concrète possible, pour nous dire quelque chose d'inouï. D'inouï. Pour nous dire quelque chose qui ne nous est pas accessible immédiatement. La parabole, il va lancer à côté, parabolos, balossé, lancer à côté, pour nous faire saisir à nous qui sommes aveugles une réalité métaphysique, une réalité qui est au-delà du physique. Alors, peut-être que je pourrais vous chanter, mais si vous le désirez, comment Jouss va faire cette proposition de relire cette phrase centrale de Matthieu où il est question du cœur de Jésus. Et si il est un cœur, c'est cet avant, cet arrière, ce passé, cet avenir, cette droite, cette gauche, ce haut, ce bas, tout se situe dans le cœur. Et le cœur, c'est le 7. Vous aviez 6 directions, le cœur, c'est le 7. Le 7e jour de la jeunesse est le lieu du repos. Du repos en Dieu. Alors, vous voyez combien, à travers cette saisie du réel, il nous faut relire ces textes fondateurs de notre civilisation qui sont toujours dans une incarnation la plus concrète possible, et en même temps qui nous disent la réalité la plus métaphysique et la plus inouïe de notre existence. Alors peut-être on peut chanter, on va chanter peut-être, s'il y en a qui le connaissent, on peut le chanter ensemble, le joug et le fardeau, pour que vous ayez un peu cette dynamique du bercement. Notre société a besoin d'être bercée. Si nous allons chercher toutes ces techniques, toutes ces méthodes, nous avons besoin de retrouver le vrai repos, hein ? Le vrai repos. Dieu nous berce. Il sait notre physiologie la plus complète, la plus concrète. Et peut-être que Jousse nous réapprend à revoir cette simplicité du message évangélique. Je vous chante, si vous voulez, puis ceux qui connaissent, ils chantent en même temps que moi. Venez vers moi, vous tous qui peinez et qui êtes surchargés, et moi je vous ferai reposer. Soulevez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que d'où je suis et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et ma charge légère. Simplement, c'est une approche, hein, une approche. Il y en a plein d'autres approches de cette parole. Mais vous voyez combien nous avons besoin, sans doute, en tout cas c'est mon expérience, je vous la livre, de retrouver cette simplicité et cette incarnation de la parole. D'où je suis. Et cette inversion nous dit quelque chose de l'être de Dieu. Dieu, quand il se manifeste à Moïse, va parler en disant Yod, He, Vav, He. Intraduisible petit mot, ce tétragramme qui dit « J'étais, je suis et je serai ». C'est à l'intérieur de cette douceur et de cette humilité du cœur de Dieu que nous trouvons le vrai repos. Et nous pouvons aller plus loin dans cette relation typologique à la parole. Où est-il question de l'humilité ? L'humilité nous est proposée dans la première catéchèse de Jésus, dans le sermon sur la montagne. Heureux les humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et encore une fois, dans le mot humble, il y a une racine à découvrir en hébreu, qui est la racine Ani. Et la racine Ani, ça veut dire d'une manière globale en hébreu les pauvres, mais ça traduit aussi un geste corporel qui est celui de se pencher, des courbés, de ceux qui portent le poids de l'existence et de la vie. Vous voyez, les pauvres, ce sont ceux qui sont courbés. Et l'humilité nous dit quelque chose de cela, vous voyez. Donc c'est à travers, encore une fois, des attitudes extrêmement concrètes et extrêmement physiques. Quand dans le Magnificat, il nous est dit, et il s'est penché sur l'humilité de sa servante, vous voyez que la rencontre, c'est deux inclinaisons, deux inclinations. L'inclination de notre propre humilité, et Dieu nous rencontre en se penchant à cet endroit-là, qu'il y a véritablement une véritable rencontre qui nous ouvre le royaume des cieux. Première des béatitudes, Ashrei, ça veut dire en route, en marche. Et là encore, dans le terme hébreu, il y a quelque chose qui nous parle du corps, c'est-à-dire qui nous met dans une dynamique, qui nous meut. Quand on aime, on est soulevé d'enthousiasme, on est projeté, on est mu quelque part. Eh bien, dans le terme hébreu, vous voyez, ce n'est pas un bonheur qui serait passif, qui serait à... mais c'est un bonheur qui nous rend acteurs. Voilà. Donc, heureux les humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et la deuxième, la douceur du cœur de Jésus, cette douceur nous ouvre à la terre promise. Et vous voyez combien dans le Notre Père, notre demande insistante et instante et insistante est de que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez quelques clés extrêmement simples qui passent par notre corporalité. Voilà, c'était un peu quelques points de repère qui nous disent, à l'endroit même du corps, qu'il nous faut recreuser sans cesse et sans cesse la simplicité paysanne de l'Évangile. Et que un paysan comme Marcel Jousse nous aide à redécouvrir cet aspect extrêmement concret de simplicité. Aplous, 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 simplicité. Aplous en grec veut dire sans pli, sans faux pli, sans duplicité. Vous voyez ? Et encore une fois, dans Matthieu, on va retrouver dans ce sermon sur la montagne, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est simple, nous dit le texte. C'est pas saint, c'est simple. A plus, tout ton corps sera lumineux. Eh bien, il nous faut redécouvrir sans doute cette simplicité-là. Voilà, c'était un premier axe, si vous voulez. Et puis, on va essayer de regarder les diapos. Et je vais, pendant qu'on essaye de techniquement les mettre, je vais vous donner un petit schéma qu'on peut se partager.